maîtrise du temps. Maintenant nous commençons avec un tout petit peu de retard. J'espère qu'en entrant dans des terres et des domaines plus méridionaux, plus exotiques, presque coloniaux, nous n'allons pas mettre trop de fantaisie et d'improvisation, et que la qualité de cette deuxième partie sera à la hauteur de celle de la première. J'ai écouté hier le rapport de Pierre Bonassi avec à la fois beaucoup d'intérêt et puis aussi un peu d'envie, parce que Bonassi, il m'a semblé qu'il partait d'une recherche personnelle, d'une historiographie extrêmement solide et d'une historiographie qui se prolonge actuellement dans des contributions comme celles dont nous avons eu quelques exemples, tout ceci formant un ensemble extrêmement cohérent et qui permet d'arriver à des conclusions. Et surtout, ce qui m'a beaucoup frappé, je crois ce qui était particulièrement intéressant dans ce que nous a présenté Pierre Bonassi et dans ce qu'il a déjà présenté dans d'autres circonstances, c'est l'association de la recherche concrète et précise, l'association de la qualité du donné discontinu tel que l'apportent les documents et d'un modèle ou d'un schéma, il a refusé le terme de modèle, d'un schéma d'évolution de ce féodalisme catalan qui sont extrêmement satisfaisants. La synthèse des deux est extrêmement satisfaisante et je crois que il y a eu quelques questions ou quelques critiques qui ont porté en particulier de la part peut-être de Reina Pastor, qui m'a semblé quelquefois peut-être moins sûr du modèle, ou en tout cas poser un certain nombre de questions sur le déroulement de ce modèle, sa chronologie, la pertinence de certaines idées en ce qui concerne la liaison, les liens entre féodalisme et frontières. Bon, alors sur cet aspect-là, je crois qu'il faut essayer de nous centrer maintenant. Et je crois qu'il est plus difficile d'arriver à des certitudes. On part d'une historiographie qui est peut-être moins avancée, et ma propre recherche est aussi moins avancée. Alors, ça sera peut-être plus tâtonnant et plus difficile, mais j'espère que nous arriverons tout de même à des résultats intéressants. Je voudrais partir d'un aveu ou d'un point de vue personnel, d'une réflexion personnelle. J'ai, jusque vers 1975, ou même peut-être un peu après, c'est des questions que je ne m'étais pas tellement posées. J'avais essayé d'accumuler des documents et d'acquérir une vision d'ensemble de du processus d'expansion chrétienne à Valence, puisque c'est mon domaine de recherche, en territoire valencien, et d'essayer de comprendre la société qui existait avant l'expansion du féodalisme catalan, disons, sur ces terres. Et j'avoue que, en ce qui concerne en tout cas la société musulmane, je n'y comprenais rien. J'avais des faits, les sources arabes me disaient un certain nombre de choses, les sources chrétiennes contemporaines de la reconquête me disaient aussi un certain nombre de choses. Tout ceci, pour moi, ça formait un donné extrêmement discontinu, extrêmement incohérent. J'ai eu, non pas peut-être une révélation, ça serait trop dire, mais j'ai trouvé une clé pour comprendre cette société musulmane antérieure à la conquête chrétienne en lisant le petit livre de Samir Amin sur le développement inégal, petit livre qui a été publié en espagnol, dans sa traduction espagnole, par Miquel Barceló, avec une introduction à cet ouvrage. Et la lecture de ces pages, la lecture du texte de Samir Amin et de l'introduction de Miquel Barceló, m'ont permis, je crois, de comprendre comment fonctionnait cette société musulmane d'avant la conquête chrétienne. Et à partir de ce moment-là, je crois que j'ai saisi par expérience personnelle, et non pas, et c'est là-dessus que je voudrais insister, non pas à partir d'une disons, d'une idéologie préconçue. J'ai compris à quel point il était nécessaire pour interpréter un ensemble de données, il était nécessaire d'avoir des schémas, des modèles, des explications d'ensemble qui, comme l'a dit Reina Pastor hier, peuvent n'être éventuellement qu'une étape dans une recherche, mais qui sont indispensables si on veut intégrer les données dont nous disposons. Je n'étais pas... C'est là-dessus simplement que je voudrais insister un petit peu et faire, c'est ce que je voudrais faire comprendre. Je n'étais pas du tout à l'origine, je n'avais aucune idéologie préconçue, je n'étais pas du tout marxiste. Bon, ce livre de Samir Amin s'insère dans un débat d'inspiration marxiste, mais ça n'est pas ça que j'ai saisi d'abord. Ce que j'ai saisi, c'est que ça me permettait de comprendre une société. Alors, je voudrais... Dans la recherche que j'essaye de poursuivre, je voudrais essayer d'associer une recherche pragmatique et une bonne connaissance des documents, qui est celle de tout historien, qu'il soit marxiste ou qu'il ne le soit pas, et intégrer aussi cette dimension et cette nécessaire connaissance ou compréhension par en se servant de modèles ou de schémas. Alors c'est pourquoi j'ai une attitude peut-être un petit peu ambiguë. À la fois, je souhaite disposer de ces instruments de recherche que sont les schémas ou les modèles d'explication globaux, et d'un autre côté, par formation, et parce que je n'ai peut-être pas adhéré à l'ensemble de l'interprétation marxiste proposée pour la société occidentale, je prends une certaine distance, ou j'essaye de prendre une certaine distance. Je crois que tout historien prend forcément cette distance, mais je la prends peut-être à certains égards, quelquefois plus que d'autres. Et je voudrais bâtir un peu mon rapport là autour. Cette difficulté, cette nécessité d'avoir des explications globales, cette difficulté aussi de les faire coller à la réalité et à ce que les documents nous apportent. Alors c'est un peu l'idée générale que je voudrais donner à ce rapport. Bon, nous allons... Oui, j'ajouterai que peut-être c'est une coïncidence que... Enfin, une coïncidence. Il se trouve que Paulino Iradiel est à côté de moi. C'est un petit peu, comme moderador, c'est un petit peu, je crois... Dans ce sens-là, quelle est la contribution qu'il a donnée à un dossier sur le féodalisme méditerranéen dans la revue Débats, la revue valencienne Débats, où il exprimait un certain nombre d'inquiétudes, ou en tout cas où il faisait bien ressentir que les apports décisifs en ce qui concerne le féodalisme méditerranéen, les apports décisifs les plus récents, pour le côté chrétien, était venu de recherches concrètes, de recherches précises sur un terrain particulier et non pas d'explications globales données à l'avance. Ce qui ne veut pas dire qu'ensuite ces recherches n'aient pas été intégrées à des explications globales. Alors, je relève un peu cette inquiétude commune, en quelque sorte, que Paulino Iradiel présentait dans ce texte publié dans Débats, dans le numéro 5 de Débats. Alors, nous allons traiter dans cette seconde partie, nous allons traiter certains aspects de l'expansion, de la seconde expansion catalane. J'insiste sur le certain, parce qu'il est bien évident, en lisant les intentions que les organisateurs du Congrès ont exposées dans le petit feuillet qui avait été envoyé au mois de juillet, ou enfin pendant l'été, il est bien évident que ce n'est pas l'ensemble des faits historiques qui concernent cette expansion catalane qui sont pris en compte dans la perspective qui était celle des organisateurs du Congrès, et ce ne sont pas non plus l'ensemble de ces aspects qui ont été retenus dans les communications qui vont nous être proposées. Alors, c'est peut-être un peu à moi, en tant justement que introducteur de ces communications et de ces deux ou trois séances qui vont suivre, c'est peut-être un peu à moi de rappeler qu'il y a d'autres aspects que ceux que nous allons traiter, et en particulier des aspects qui ont été très étudiés dans le passé, qui font partie de l'historiographie, de la grande historiographie traditionnelle sur cette expansion catalane ou catalano-aragonaise, et qui ici seront non pas oubliés, mais resteront un peu en filigrane ou en arrière-plan de ce qui va nous être présenté. Ces aspects ou ces thèmes, je crois qu'on peut se dispenser, je peux me dispenser d'y insister très longuement, dans la mesure où ce sont les thèmes qui sont bien exposés, très bien expliqués, dans une excellente vision d'ensemble de cette bibliographie et de cette historiographie de l'expansion catalane, qui a été donné dans le dossier sur l'expansion catalane publié dans la revue L'Avens en mai 1979, article écrit contribution de Jaume Portella. Mais je reprendrai, je me suis servi de cette contribution, de cette vision historiographique d'ensemble, et j'en reprendrai deux points, deux thèmes qui ont été fondamentaux dans l'historiographie traditionnelle et qui ici, bon, seront, encore une fois, non pas laissés de côté ou oubliés, mais resteront un petit peu comme un contexte général dont il n'est pas beaucoup question ou dont il n'est question qu'en second lieu ou secondairement dans les contributions qui vont suivre. Ces deux thèmes, c'est d'abord la dimension, disons, géopolitique, pour employer un terme un peu ambitieux, mais qui, je crois, convient bien à ce que je veux désigner, la dimension donc géopolitique, la dimension événementielle et la dimension dynastique de cette expansion catalane, ou de cette expansion de la couronne d'Aragon, et plus précisément, plus particulièrement catalane, dans le Levant péninsulaire et dans les îles méditerranéennes. Alors, c'est un point sur lequel je ne vais pas insister, je ne veux pas le développer, mais je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Ce matin, Marty Aurèle a douté, et peut-être avec raison, du projet ou de la planification de cette expansion. Bon, je crois que c'est au moins un problème qu'il faut poser, et le poser peut-être effectivement de plus en plus nettement au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Est-ce qu'il y a une vision dynastique, une vision nationale, bon, ou dynastique de cette expansion? Je crois que on est un peu obligé de le poser. Si on étudie le déroulement de cette expansion dans le temps, si on voit que sa cohérence, elle est tout de même dynastique. Marty Aurèle le rappelait hier, il s'agit peut-être en Provence de caser jusqu'à un certain point des cadets de famille. Bon, c'est peut-être ça, ou c'est peut-être autre chose, surtout par la suite, mais il y a cette dimension qui donne une unité, certainement, à cette expansion. Et à cette dimension monarchique, à cette dimension dynastique, je crois qu'il faudra qu'on revienne un peu, en tout cas moi je voudrais y revenir un peu, en parlant, et je crois que c'est tout de même très important, de l'importance de la monarchie, dans du facteur monarchique dans cette expansion, dans les déterminants et dans la manière dont s'est réalisée cette expansion. Alors c'est quelque chose, je crois, qu'il ne faut pas oublier. Deuxième point qui peut-être se trouve un peu plus, de façon un petit peu plus nette dans les contributions que j'introduis, c'est l'insertion de cette expansion catalane dans l'économie méditerranéenne de l'époque, dans les courants d'échange, ces rapports avec les courants d'échange méditerranéens de l'époque. Là aussi, c'est un thème qui a obsédé, ou qui en tout cas a beaucoup occupé l'historiographie traditionnelle, l'historiographie précédente, disons, l'historiographie des années jusqu'en 1950. C'est un thème qui n'apparaît que assez discrètement dans les communications qui vont suivre. Il apparaît tout de même beaucoup plus directement dans la communication de Antoni Riera sur Majorque, et il apparaît aussi d'une façon qui m'a paru assez intéressante dans la communication, dans la contribution de Antoni Furio et de Ferran Garcia sur Valence, où est bien montré, où on voit bien comment la domination du commerce et de la finance italienne a pour effet un blocage de l'autonomie des bourgeoisies urbaines valenciennes, des éléments urbains valenciens, de leur possibilité, de leur autonomie vis-à-vis du commerce méditerranéen ou vis-à-vis du commerce avec le reste de la péninsule, et ont indirectement pour effet peut-être aussi un blocage des possibilités de développement des campagnes valenciennes avec un capital autonome qui viendrait de la ville, où certaines orientations sont données aux développements économiques valenciens du fait de cette domination d'un capital étranger, d'un capitalisme étranger. Il y a donc un certain nombre de problèmes qui sont importants, mais qui restent là aussi peut-être un peu à l'arrière-plan de l'ensemble des communications, bien que, encore une fois, quelques-unes d'entre elles donnent à ces aspects une importance, l'importance qu'ils méritent. Enfin, un troisième aspect que je voudrais développer un petit peu, c'est qui, lui, ne fait pas partie de cet ensemble de points traités par l'historiographie catalane antérieure. Ce troisième aspect, c'est l'aspect aragonais. La dynastie de Barcelone est à la tête de la couronne d'Aragon. Bon, tout le monde le sait. C'est la maison royale d'Aragon. Le titre royal aragonais, officiellement, et du fait de la hiérarchie plus élevée ce titre royal passe dans la titulature avant le titre de comte de Barcelone. Et je crois que, peut-être est-ce un point de vue d'historien travaillant sur l'histoire de Valence, mais je crois qu'il ne faut pas oublier non plus cette dimension aragonaise. Et en particulier, j'en discutais tout à l'heure avec Henrik Guinot à propos de sa communication sur les Cartas Pueblas du Maestrazgo, le développement des seigneuries, des grandes seigneuries du Maestrazgo. Bon, il n'est peut-être pas tout à fait de mon avis, mais il me semble que dans ces Cartas Pueblas du Maestrazgo, il y a un aspect qu'on ne peut pas oublier, c'est l'aspect de droit aragonais. Bon, on aura peut-être une discussion là-dessus, on peut avoir une discussion là-dessus. À mon avis, dans la conformation des institutions valenciennes, ce n'est pas pour relancer ou pour faire réapparaître une vieille querelle de l'historiographie valencienne sur le poids respectif des influences aragonaises et catalanes dans la conformation du royaume de Valence, mais je crois qu'un certain nombre de données venues de la tradition aragonaise sont importantes pour comprendre le féodalisme valencien à ses origines. Et en particulier, parmi ces données, il y a des apports seigneuriaux aragonais, une certaine tradition seigneuriale aragonaise assez différente, je crois, de la tradition catalane, et qui s'est développée, peut-être a avorté à partir d'un certain moment, mais s'est développée dans le cadre valencien et qui est importante, je crois qu'il est important de prendre en compte. À titre comparatif, il me semble que aux origines des institutions valenciennes et des institutions et des rapports sociaux entre seigneurs et paysans dans le cadre valencien, là je parle de Valence que je connais mieux et parce que je crois que c'est là que ce problème a une importance, il y a eu à certains moments, dans des conditions qui resteraient à préciser, une option possible entre un cadre seigneurial valencien, un cadre seigneurial aragonais, un cadre seigneurial catalan. Et, bon, pourquoi on a choisi dans tel ou tel sens, quelle force allait dans tel ou tel sens, je crois que le problème mériterait d'être posé si on considère, comme le dit d'ailleurs Henrik Dinot dans sa contribution, que ce féodalisme aragonais ou cette seigneurie aragonaise était, dans la forme dans laquelle elle se présente dans le maestrazgo, était relativement légère pour les paysans. Alors, bon, je crois que c'est aussi un certain nombre de problèmes qu'il serait intéressant de développer. Malgré tout, ces aspects, ce ne sont pas les aspects principaux qui apparaissent dans les contributions dont je dois parler. Le premier aspect qui apparaît, qui correspond, je crois, à l'idée, à l'une des idées maîtresses des organisateurs du Congrès quand ils pensaient à cette deuxième partie de ce colloque, c'est la confrontation entre société occidentale et société, disons, orientale. Alors, c'est là qu'il faut revenir au livre dont je parlais tout à l'heure et aux idées qui ont tourné autour de ce livre et aux idées que Michel Barcelo défendra mieux que je ne pourrais le faire dans sa communication sur la société tributaire. Dans le livre de Samir Amin, dans le texte de Samir Amin, il y a l'idée que la société musulmane médiévale, en général, ça ne s'applique pas uniquement et ça ne s'applique pas particulièrement à l'Andalous, la société musulmane médiévale, il faut trouver pour décrire, pour expliquer cette société musulmane médiévale, une dénomination ou une catégorie positive, et ce qui est proposé pour dénommer cette société et l'expliquer jusqu'à un certain point, c'est le terme de tributaire mercantile. Fondamentalement, je crois, pour l'expliquer en trois mots, je ne suis peut-être pas celui qui est le mieux placé pour l'expliquer, mais l'idée, c'est que on est dans un type de société où se trouvent face à face deux réalités fondamentales, une réalité, disons, étatique, et une réalité communautaire, enfin des communautés rurales en particulier, puisqu'il s'agit souvent de sociétés dont la base rurale est très importante, et que entre ces deux réalités, entre des communautés rurales qui possèdent la terre, ou en tout cas qui jouissent de droits étendus sur la terre, et les structures étatiques, il n'y a pas d'intermédiaire comparable à celui qui existe dans la société féodale occidentale, où il y a une classe aristocratique qui détient directement, qui a souvent détruit, qui est parvenue à une espèce de destruction des structures étatiques, et qui détient directement, qui exploite directement des droits sur la terre et sur les hommes. Bon, cette catégorie sociale, cette classe, n'existe pas dans cet autre type de société qu'on peut désigner sous le nom de société tributaire. Bon, on voit bien l'importance de cette classification. Dans un cas, toute la société est organisée autour de l'entretien et du fonctionnement, on pourrait presque dire, d'une catégorie aristocratique qui, en Occident, est une catégorie guerrière, est une catégorie militaire, fondamentalement militaire. Cet élément social, cette classe sociale autour de laquelle tourne toute la société en Occident, n'existe pas dans la société tributaire et dans la société andalouse, si on accepte cette classification pour la société andalouse. Bon, on voit évidemment la grande importance que cela a pour comprendre la reconquête, pour comprendre le processus d'expansion de l'Occident. Dans un cas, une société ordonnée à entretenir cette catégorie sociale féodale, cette catégorie militaire, dans un autre cas, une société où ce phénomène, ce fait n'existe pas. Et ça correspond exactement à ce qui était proposé dans le petit dépliant dont je parlais tout à l'heure. Les recherches récentes donc sur Tortosa, Majorque, Minorque, Ibiza, etc., et Valence, arabo-musulmane, permettent de mieux comprendre comment se réalisent ces conquêtes et l'organisation des colonisations, ainsi que, et c'est ce qui me paraît important, ainsi que les contrastes décisifs entre la société conquérante et la société conquise, en facilitant, par exemple, l'exacte compréhension de leurs différentes capacités militaires. Bon, je crois que c'est un peu le centre du problème. Bon, alors, cette société tributaire, je laisse à Miquel Barceló le soin de développer l'explication de ce qu'elle est, je crois que c'est ce qu'il fait parfaitement dans sa communication, avec une intégration de la réflexion théorique à l'explication de ce donné discontinu des faits, ou plutôt de ce que nous en savons à travers les sources, dont je crois je ne serais pas capable à ce point, et en outre, j'irais peut-être moins loin que lui dans la systématisation de ce modèle segmentaire. On est devant cette société musulmane, je crois, andalouse est une société très, très segmentée en communautés. Bon, si on devait entrer dans une discussion sur la nature de cette segmentation, Miquel Barceló attribue beaucoup d'importance à la segmentation généalogique. Non pas une généalogie vraie, forcément, mais une généalogie fonctionnelle, explicative, du mécanisme social lui-même. Bon, là, je ne sais pas si j'irai aussi loin que lui. L'un des problèmes que l'on peut poser, on en a discuté quelques fois, c'est dans quelle mesure les clans et les tribus, mais je pense qu'il faudrait être très prudent dans l'utilisation du mot tribu ou même du mot clan dans cette société, tels qu'ils nous apparaissent, par exemple, dans la toponymie. Il y a toute une toponymie clanique, une toponymie gentilice. Bon, jusqu'à quel point est-ce que c'est opérationnel, si on peut dire, au niveau fonctionnel, au niveau politique, encore à cette époque? Dans la communication de Miquel Barceló, il me semble qu'il y a une tendance à accepter cette fonctionnalité de cette segmentarité généalogique dans la société baléare, par exemple, dans la société majorquine. Je n'irai, quant à moi, peut-être pas aussi loin, mais je crois que c'est des problèmes qu'il faut poser, qu'il est très important de poser. Le fonctionnement général du système, je suis totalement d'accord avec ce que Miquel Barceló expliquera, cette société où il y a une alternative au pouvoir politique exercé par le pouvoir central, qui est un fonctionnement autonome des communautés rurales qui peuvent fonctionner sans pouvoir, sans l'existence d'un pouvoir central, et même, je crois, des communautés urbaines qui peuvent aussi, on le voit assez souvent dans l'histoire d'Al-Andalus, fonctionner en l'absence, lorsqu'il y a désintégration du pouvoir politique central, du sultan, ces communautés urbaines se mettent à fonctionner seules, à partir de leurs seules institutions religieuses, en remettant le pouvoir au cadi. Bon, je n'insiste pas parce que je crois que ce sont des aspects que Miquel Barceló va traiter, et encore une fois, je crois qu'il est plus qualifié que moi pour les traiter. Dans la connaissance de ce système sociopolitique, tributaire, disons, de l'Espagne musulmane, d'Al-Andalus, il y a encore beaucoup de possibilités de recherche, bien que les textes arabes soient peu nombreux, possibilités de recherche dans le domaine archéologique, et là, je renvoie aussi à la communication de Guillaume Rossellio, qui, je ferai seulement remarquer, et j'insisterai seulement sur un fait parce qu'il est peut-être trop modeste pour le faire, c'est que dans son énumération et sa prise en compte des apports récents ou des recherches récentes qui ont été faites sur l'Espagne musulmane et sur l'archéologie de l'Espagne musulmane, il y en a une qu'il oublie de mettre en lumière et de monter en épingle, si l'on peut dire, c'est la sienne. Et je ne le dis pas pour louer systématiquement le travail qu'il a fait sur Majorque, mais parce que le corpus de le catalogue ou l'inventaire de céramique qu'il nous a donné il y a quelques années est le seul catalogue d'ensemble de céramique musulmane andalouse, non seulement andalouse, mais de tous les pays musulmans de la Méditerranée occidentale. C'est-à-dire que c'est le seul ensemble complet de trouvailles céramiques, avec toutes les formes que l'on peut trouver, qui permet une approche de ce donné matériel fondamental qu'est la céramique, l'un des rares que nous puissions connaître véritablement. Et je crois que ce qui est très intéressant, ça serait de faire la liaison ou le rapport entre le catalogue céramique donné par Miquel Barceló, en le complétant d'autres trouvailles céramiques du catalogue de la typologie de la céramique musulmane qu'a donné par exemple André Bazana, et de comparer ces céramiques, ces formes céramiques, avec celles que l'on trouve en Catalogne et qui peuvent être maintenant étudiées grâce aux typologies et aux catalogues ou aux pré-catalogues qui en ont été donnés par Manuel Rioux. Je crois que là, on a, en comparant la richesse des formes céramiques du monde andalou à travers l'exemple baléar, et il me semble tout de même la pauvreté beaucoup plus grande des céramiques de la même époque du monde catalan, de l'espace catalan, je pense qu'on a déjà une idée de la différence profonde qui pouvait séparer à cette époque les deux sociétés sur ce point particulier. Autre point que j'aurais, je ne crois pas que Marie-Carmen Barceló soit venue, je le regrette parce que sur la toponymie en particulier, la géographie historique, il y aurait eu des points importants à débattre. Elle est l'auteur d'un très important inventaire de la toponymie valencienne. Sur ce domaine de la toponymie et de la géographie historique, il y a des recherches également poursuivies par Ángel Poveda, avec des méthodes qui sont extrêmement intéressantes, qui s'appliquent à un donné d'une richesse considérable, le donné toponymique du répartiment de Majorque. Bon, je crois que ce sont des voies extrêmement neuves et intéressantes et qui pourront nous apporter beaucoup sur la société andalouse à la veille de sa conquête par les catalano-aragonais. Dans le domaine des textes, les communications qui vont être présentées insistent, et Miquel Barceló y insiste aussi dans sa propre communication. Il y a un domaine dans lequel la capitulation de Tortosa, par exemple, étudiée par Anthony Virgili, les documents très intéressants et qui sont exploités d'une façon qui m'a paru remarquable sur la conquête de Minorque par Aurelia Gené, nous apportent, bon, je ne peux pas m'attarder sur cette communication en particulier, ou sur ces communications en particulier, mais il y a là un mode de connaissance d'une société qui, par la seule recherche sur les sources arabes, nous échappe très largement, en particulier des micro-sociétés, des sociétés rurales, en tout cas de petites sociétés comme celle de Minorque, nous avons, à travers les textes chrétiens, des aperçus qu'autrement nous ne pourrions pas du tout avoir. C'est une espèce de vision des vainqueurs qui est, je crois, fondamentale pour comprendre ces sociétés. Il faut en arriver à l'autre aspect de cette époque. Jusqu'ici, nous avions, avec la société musulmane, un non-féodalisme, je crois, en tout cas, une sorte de contrepoint du problème du féodalisme. Il faut en arriver à la société féodale elle-même, ou à celle qui, dans le cadre de ce colloque, est fortement caractérisée comme féodale, c'est-à-dire la société chrétienne, et le processus même de reconquête et les nouvelles sociétés qui se créent sur ces territoires nouvellement acquis. Alors, je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure à propos de du rapport de Pierre Bonassi. Pierre Bonassi nous a présenté donc un schéma très cohérent et très convaincant dans lequel il fait apparaître une sorte d'alternance ou en tout cas un rapport, un lien entre expansion, dynamisme expansionniste et pression à l'intérieur sur la paysannerie. Bon, ce rapport, il est tout à fait d'accord, je crois, et ce matin même un certain nombre de communications ont porté sur ce point. Il n'y a pas de rapport mécanique, il n'y a pas. Mais je crois que dans la communication de Pierre Bonassi, dans le rapport de Pierre Bonassi, il y avait tout de même cette idée assez fortement affirmée d'une sorte d'alternance entre pression sur les paysans, sur la classe paysanne, pression de la classe seigneuriale sur la classe paysanne à l'intérieur, ou, comme une sorte d'alternative, expansion à l'extérieur. Il m'a semblé que la conférence de Reina Pastor était peut-être plus hésitante sur ces liens à établir entre le phénomène d'avancer sur la frontière et la pression féodale à l'intérieur. En tout cas, je crois que si on accepte le schéma d'un côté d'une société féodale, d'un autre côté d'une société aféodale, d'une société tributaire, et si on fait de la différence entre ces deux sociétés l'explication fondamentale, et je suis très plus que tenté de le faire, l'explication fondamentale de l'expansion chrétienne, on se heurte tout de même à un certain nombre de difficultés. Et c'est peut-être celle que je vais essayer d'expliquer maintenant, ou de développer un peu maintenant. Le caractère militaire, si on met en évidence, et si on donne beaucoup d'importance au caractère militaire, féodal, militaire de la société chrétienne, on est tenté de chercher l'explication du dynamisme expansionniste chrétien dans ce caractère militaire lui-même. Et je me réfère, par exemple, à l'article qui m'a paru, enfin qui me paraît très suggestif et très intéressant de Anthony Furio et Ferran Garcia, la contribution qu'ils avaient donnée au mélange, à l'hommage à Tunión de Lara, sur le féodalisme valencien. Dans cet article, d'une façon que peut-être il ne reprendrait pas telle qu'elle aujourd'hui, mais dans cet article, il posait, en quelque sorte en principe ou a priori, cette importance dans le phénomène de reconquête de la classe aristocratique catalano-aragonaise. C'était les contradictions de la société féodale qui poussait, et de cette classe elle-même, à l'intérieur d'elle-même, ou de ses difficultés à obtenir le maximum de rentabilité de ses seigneuries, qui poussait à l'expansion. Et effectivement, je crois que si on se place dans cette perspective, on est obligé d'accorder une très grande importance dans l'expansion à cette classe aristocratique, d'y voir le moteur, ou en tout cas l'une des explications fondamentales de l'expansion. Mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est que la réalité des faits ne colle pas toujours absolument avec ce schéma, sans que je puisse en proposer un autre. D'abord, il y a l'attitude de l'aristocratie. Si on prend la conquête de Valence, on constate que, au niveau en tout cas de la haute aristocratie, il n'y a pas toujours adhésion au projet de reconquête. Et il y a même souvent, apparemment, une certaine réticence. Alors, ça peut peut-être s'expliquer, mais ça pose déjà un problème. L'aristocratie n'adhère pas toujours, apparemment, spontanément ou facilement au projet royal. Alors, c'est mon deuxième point, ma deuxième question. Je crois que dans cette expansion, il y a un rôle très important de la monarchie. Bon, c'est reconnu par l'historiographie traditionnelle sur la reconquête castillane, les travaux de Sanchez de Bornos. Je crois qu'il faut arriver à intégrer cette dimension monarchique et ce rôle déterminant de la monarchie à un schéma d'explication. Il faut l'intégrer d'autant plus que, et c'est ma troisième question ou mon troisième point sur ces réserves ou ces nuances ou ces problèmes que me pose un schéma explicatif de la reconquête peut-être trop centré sur les contradictions de la société féodale, et c'est peut-être celui qui me gêne le plus, cette société féodale en expansion produit une société qui, je crois, dans son détail et dans son ensemble, non seulement n'est pas toujours féodale, mais même quelquefois fondamentalement aféodale. Alors, c'est un problème qui a été abordé hier, ce que répondra, je crois, Reina Pastor, par exemple, c'est que, qui a touché ce problème dans sa conférence, c'est que il faut envisager la société féodale dans son ensemble et voir qu'il y a un mode de production et des relations hégémoniques et d'autres qui ne le sont pas et qui sont souvent des formes qui se développent sur la frontière. Intellectuellement, ça me gêne, je crois qu'il y a tout de même un problème. Et il me semble que dans son petit livre sur Tolède, le titre exact, je ne m'en souviens plus, En las fronteras de dos formaciones sociales, c'est un problème qui est posé. Et je crois qu'on a toujours un certain malaise pour le résoudre. Parce que, dans le cas valencien, par exemple, les formes engendrées par l'avance de la reconquête sont souvent extrêmement peu féodales et même pas féodales du tout. Le système de tenure des châteaux, par exemple, est fondamentalement, il me semble, aféodal. Le système de la Alcaïdia, c'est un système qui, je crois, est emprunté au monde musulman et n'a rien de féodal, sauf que peut-être les Alcaïdes qui tiennent les châteaux pour le roi sont probablement, mais ça n'est pas dit, ça n'est pas clair, des vassaux du roi le sont avant de devenir Alcaïde, mais dans le système même de la Alcaïdia, il n'y a aucun élément féodal juridique et il n'y a aucun élément féodal social, en tout cas au niveau de ce que nous pouvons percevoir de ce système. L'Alcaïde est une sorte de fonctionnaire royal, payé par le bail royal, qui n'exerce que des fonctions militaires et n'a aucun rôle seigneurial. Il me semble que se développe un certain nombre de faits très divers, parmi lesquels il y a cette Alcaïdia, parmi lesquels il y a la distribution par le roi en alleux d'une partie importante des terres, qui pose un certain problème et qu'il faut essayer d'expliquer et peut-être d'intégrer à un modèle général, mais on ne peut pas évacuer ce problème. Et en tout cas, si l'on dit, comme le faisait hier Reina Pastor, que ce sont des éléments mineurs, en quelque sorte, relativement marginaux, générés par l'avance même de la reconquête, bon, il faut bien évaluer leur poids et voir comment ils se forment et comment éventuellement ils disparaissent. Alors l'argument le plus fort en faveur de leur caractère effectivement secondaire, dépendant par rapport à une formation sociale plus vaste et englobante, ça serait, je crois qu'ils ont tendance à disparaître, qu'ils sont progressivement éliminés. Mais au moment même de l'expansion, ils ont, je crois, tout de même beaucoup d'importance et il faut en tenir compte. En effet, et c'est mon dernier point, c'est le dernier aspect sur lequel je voudrais insister, dans le contact, dans cette naissance de nouvelles sociétés, effectivement, ces aspects non féodaux, et non féodaux, j'insiste sur le fait que le non-féodalisme, je le vois aussi bien dans le domaine juridique, c'est-à-dire féodalité au sens étroit et strict, que dans le domaine plus large, au sens que féodalisme, dans lequel nous avons pris, enfin, le mot féodalisme a été pris tous ces jours. Alors, dans les nouvelles sociétés qui sont ainsi en gestation, qui sont en train de se constituer, et qui s'établissent sur les marches du monde chrétien, aux frontières du monde chrétien et du monde musulman, je crois qu'il y a trois... Enfin, il m'est apparu, à lire les communications qui seront présentées maintenant, il m'a semblé qu'il y avait pas mal de problèmes, mais il y en a trois, je crois, qui me paraissent très importants, en tout cas pour le domaine baléare-valencien. Le premier, qui est un problème assez bien résolu et assez clair, il me semble, dans les communications que nous avons sous les yeux ou que vous allez entendre, c'est le rôle de l'amphithéose, l'importance de l'amphithéose dans les relations qui se nouent entre pouvoir seigneurial et paysannerie, dans la configuration du système. Trois communications accordent beaucoup d'importance à ces rapports amphithéotiques, à cette amphithéose. Celui de Angel Rodriguez, qui nous donne une très intéressante vision des hiérarchies de droit qui, à partir du système amphithéotique, se construisent sur la terre dans la seigneurie templière de Pollensa. La communication de Ricard Soto, dans laquelle on voit bien comment, là aussi, à l'intérieur de ce système amphithéotique, s'introduit la possibilité pour une catégorie de personnages, de familles aisées, de se glisser dans le système entre la catégorie seigneuriale détentrice des droits éminents sur la terre et la catégorie des colons, ou de ceux en tout cas qui cultivent la terre, qui exploitent et qui cultivent la terre. Et enfin, la communication de Anthony Furio et Ferran Garcia, qui font de l'amphithéose, au même titre que les deux autres communications, l'élément clé, ou l'un des deux éléments clés du système féodal, du féodalisme valencien, la garantie en quelque sorte de la fragilité de l'exploitation paysanne. Alors, c'est le deuxième problème dans cette construction de ces sociétés qui me paraît très intéressant et qui mériterait, je crois, à lui seul tout un colloque, ou en tout cas un long débat, c'est l'exploitation paysanne, l'exploitation concrète à la base. Que représente cette exploitation paysanne et en particulier, quelle est son étendue? Je crois que c'est un très gros problème, très, très intéressant. Dans les communications qui nous ont été données, il y a des éléments pour approcher la solution de ce problème. Bon, je ne peux pas entrer dans les détails, mais il me semble qu'on peut tirer des communications sur Pollensa et sur la Ribera du Júcar, enfin sur Valence et plus particulièrement la Ribera, l'idée que, à la fin du XIIIe, début XIVe, puis au XVe siècle, la petite exploitation paysanne est de l'ordre de 2,5 hectares. L'exploitation moyenne serait de l'ordre de 2,5 hectares à peu près, dans les deux cas. Bon, si on se reporte en arrière, à l'époque des repartiments, on constate que les propriétés, que les lots de colonisation sont beaucoup plus grands. Les lots de colonisation, en tout cas dans la région valencienne, que je connais, et que je connais mieux en tout cas, sont de l'ordre de 3 à 4 jovadas, c'est-à-dire 9 à 12 hectares. Alors la question qui se pose, c'est quelle est la dimension effective de la petite propriété paysanne, quelle est son étendue minimum, et qu'est-ce que le roi a dans la tête, ou comment, qu'est-ce que, au moment de la conquête, ceux qui occupent le territoire ou ceux qui planifient sa répartition ont dans la tête en donnant des lots de, disons, 9 à 12 hectares. À quoi correspondent ces lots? Je crois que c'est un problème qui est important, qui est très difficile à résoudre. Dans la documentation majorquine, dans les registres notariés, les premiers registres notariés qui sont beaucoup plus anciens que les registres valenciens, il me semble qu'il y a quelques éléments pour répondre à cette question de la dimension normale en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est qu'une petite exploitation? Qu'est-ce que c'est qu'une exploitation paysanne de base? C'est un débat que peut-être on pourra prolonger un peu et qui, je crois, est fondamental. Enfin, dernier problème, très rapidement, mais il est fondamental aussi, qui travaille la terre? Dans ces exploitations de ces terres de colonisation, finalement, ben, ce sont des terres de colonisation, qui travaille effectivement la terre? Quelle est la main-d'œuvre employée sur les terres? Main-d'œuvre musulmane, main-d'œuvre servile, main-d'œuvre salariée ou payé d'une certaine façon, libre, mais employé d'une certaine façon, soit payé en argent, soit payé en nature, quelle forme de travail est appliquée à la terre? Est-ce que le système de la petite exploitation chrétienne, avec un paysan chrétien, colon, quelle que soit la forme de sa dépendance ou de sa non-dépendance, est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Est-ce que il y a en réalité une main-d'œuvre musulmane importante? Je pense en particulier à Valence, je pense aussi à Majorque où l'esclavage musulman semble avoir été assez important. Comment la terre est-elle travaillée? Je crois que les trois problèmes sont liés. Amphithéose, importance de l'amphithéose et poids de l'amphithéose dans la définition des nouvelles sociétés, taille de l'exploitation paysanne et travail effectif, force de travail appliquée à la terre. Je crois que c'est les trois problèmes qu'on est loin d'approcher de façon satisfaisante et de pouvoir résoudre de façon satisfaisante. Les donations du repartimiento, à mon avis, ce ne sont pas des exploitations concrètes, c'est autre chose, ou en tout cas ça va vite être autre chose. Je crois que ce sont les problèmes les plus fondamentaux à résoudre dans l'axe des communications que j'ai lues. Bon, je n'étends pas davantage ce que j'avais à dire. Voilà à peu près, il me semble, les lignes qui me paraissent importantes dans cette deuxième partie de ce colloque.